I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
Moi, j'ai envie de faire un enfant toute seule. Le problème, c'est que pour faire un bébé, il faut un utérus, des ovocytes, ça j'ai, mais aussi du sperme. Et ça, j'en ai pas. Du coup, je me suis mis à la recherche du sperme parfait. Et puis après, il faut faire une petite tambouille et mélanger tout ça. Et moi, j'ai pas trop envie que la conception de l'enfant soit médicalisée. Et pour concevoir un enfant d'une façon non médicale, il faut se procurer le sperme par soi-même. J'ai regardé les banques de sperme, ça me plaît pas. Il y a juste trop d'infos, et en plus, il n'y a pas les infos que je cherche. C'est-à-dire, par exemple, savoir si le donneur est queer comme moi. Et puis, je me suis dit que j'allais juste renverser le paradigme. Au lieu d'éplucher les profils de donneurs sur des bases de données, j'allais plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire chercher des personnes qui me plaisent et leur demander du sperme. Du coup, j'ai pris mon micro et je me suis rendue dans le Marais un vendredi soir. J'ai scanné les hommes en terrasse, et dès que j'en ai vu un qui me plaisait, je suis allée le voir. Bah, j'aimerais beaucoup savoir si l'un d'entre vous accepterait de me donner du sperme.
La question. Je dirais que non, parce que j'aurais besoin d'avoir des nouvelles de l'enfant. Et que du coup, je me sentirais trop coupable de ne pas pouvoir l'aider.
Mais il n'a pas besoin de toi, l'enfant, si...
Non, il n'a pas besoin de moi, mais moi, j'ai envie de... J'utilise mon sperme un jour, j'aimerais bien que l'enfant... Enfin, j'aimerais bien avoir une relation avec l'enfant. J'aimerais bien pouvoir, l'aider pour plein de choses, lui apprendre des choses sur la vie. Là, comme je ne te connais pas en face de moi, je ne peux pas parce que je ne te connais pas. Et que peut-être que tu ne vas même pas faire ce que tu dis, tu vois ce que je veux dire? Mais si on se connaissait, ce serait différent.
C'est une partie de toi, mais... C'est pas toi. En fait, c'est trop bizarre, mais je trouve que là, on est dans une perception capitaliste de possession. C'est un peu bizarre. En fait, c'est... Non, je suis pas...
Non, donner à une amie,
je suis pas d'accord sur le fait de voir un truc qui me ressemble et vouloir dire que c'est à moi. Non.
Ah non, mais c'est pas forcément dire que c'est à toi, mais c'est d'avoir un lien quand même, parce que je trouve ça beau, en fait, la création, ça fait partie de la nature humaine de procréer, et que quand même aussi, on est des êtres humains, on est des animaux, mais on est des êtres humains, et qu'on a une conscience, les animaux aussi, d'ailleurs, on l'a prouvé, et que je pense qu'on a moi, j'aurais un lien affectif, même si ça ne veut pas dire qu'il t'appartient.
On est dans un contexte où tu donnes quelque chose parce que quelqu'un en a besoin, et le veut, et tu en as pas besoin peut-être en ce moment, et tu peux donner quoi.
Toi, tu donnerais à quelqu'un sans savoir qui c'est?
Oui.
Moi, j'arriverais pas. Enfin, c'est pas que j'arriverais pas, c'est que ça me ferait trop bizarre de me dire que j'ai loupé. J'aimerais bien le voir, en fait, le gosse. J'aimerais bien le être un peu pas présent. Je dis pas qu'il faut un homme ou une femme ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça. J'aimerais juste le connaître, quoi. Même quand je vais vieillir, je me dirais, ah merde, si je suis tout seul et que je finis ma vie et que j'ai pas d'enfant, j'ai pas forcément envie d'avoir des enfants, mais j'y penserais à cet enfant.
Et toi, ça te dérangerait? Tu penses que t'y penserais pas? Tu penserais pas parfois à l'enfant qui est né grâce à ton sperme?
Si, bien sûr, mais pas dans un mode où j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, juste j'ai donné, j'ai aidé et c'est fait. Et...
Les hommes du groupe d'à côté se posaient beaucoup moins de questions.
Je vis avec un garçon, mais s'il faut aller avec une fille pour donner son sperme, il n'y a pas de souci.
Moi, ça ne me gêne pas.
Ah, mais moi, il n'y a pas de souci.
Moi, je pense qu'au contraire, oui, parce que j'ai toujours pensé que j'en aurais pas des enfants, donc si ça peut permettre à quelqu'un d'en avoir, pourquoi pas.
Moi, votre réponse m'a rempli de bonheur. Hein. Je prends vos numéros de téléphone et je vous recontacte. Hein.
D'accord, j'habite à Bastille. Hein.
Je garde ça bien au chaud, parce qu'en fait, des hommes qui ont accepté de me donner du sperme, il n'y en a pas eu des masses. Il y en a certains qui voulaient juste pas donner sans être le père. Il y en avait d'autres qui voulaient bien donner, mais uniquement s'ils connaissaient les parents. Histoire de s'assurer à la fois que les parents s'occuperaient bien de leur progéniture et d'autre part de rester en contact avec l'enfant. Et puis il y en a qui s'en fichent. Pour eux, donner du sperme, c'est vraiment comme donner du sang, rien de plus. C'est juste un don physique et basta. Après tant de conversations, j'étais un peu crevée. Avant de rentrer chez moi, je suis allée chercher un falafel. Et là, j'ai commencé à discuter avec deux mecs hétéros, pas encore trentenaires. Il y avait Noé, qui avait peur que l'enfant débarque dans sa vie 20 ans plus tard et chamboule tout. Et puis il y avait son pote Antoine, qui, lui, à l'inverse, avait peur de vouloir rencontrer l'enfant. Et pendant qu'on était en train de parler tous les trois, il y avait un homme d'une quarantaine d'années avec sa femme et ses deux filles qui nous écoutaient. Je sentais bien qu'il avait envie de participer et puis à un moment, il est juste rentré dans la conversation.
Pourquoi moi est-ce que j'aurais pas envie de le retrouver? Pourquoi est-ce que moi j'aurais pas envie d'aller le chercher? Pourquoi est-ce que moi j'aurais pas envie de savoir à quoi est-ce qu'il ressemble et qu'est-ce qu'il fait et s'il est bien, s'il est pas bien, s'il est heureux, s'il est pas heureux?
C'est intellectualiste trop le projet en fait. On est des cellules biologiques. Tu aides des gens à procréer. Tu donnes une cellule. Et c'est, l'enfant qui naît, c'est pas ta cellule. Bah non, c'est pas réducteur. Moi, je pense que l'enfant qui naît, il dépend pas juste de biologiquement la cellule que tu donnes, c'est dans quel environnement il grandit.
Ouais, bien sûr, je suis 100% d'accord.
Et comment on le fait pousser.
Et dans 20 ans, je peux avoir envie de le retrouver et j'ai envie de pouvoir avoir le droit d'avoir le retrouver. Genre. Je suis navré.
Moi, j'ai deux enfants.
Ouais.
Dans mon foyer, je souhaite pas en avoir d'autres. Après.
Oh, c'est peut-être ça qui est différent aussi, moi j'ai pas d'enfant.
Donner mon sperme, c'est aider des gens qui n'arrivent pas, parce que de nos jours on est dans des situations où t'as plein de couples qui ne parviennent pas à avoir d'enfants, les aider à vivre ce que moi je suis heureux de vivre.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est juste une assistance.
Ouais, bien sûr. Non, mais comme, de ce point de vue-là. Mais après, c'est peut-être parce que
c'est comme
enfants,
le don du sang. Pour moi, c'est comme le don du sang ou le don de plaquettes.
Bon, la discussion elle a continué. Elle s'est carrément agitée même, jusqu'au moment où Antoine est parti. Et puis le père de famille aussi est retourné à sa famille. Et moi, je me suis retrouvée seule, du coup, face à Noé.
Bon, bah du coup, c'est pas toi, en tout cas, qui va me donner du sperme, là, ce soir, quoi.
Bah là, ce soir, non. Là, ce soir, non. Mais peut-être demain, je sais pas, mais... là, ce soir, je vais prendre mon falafel et je vais le manger et on va aller retourner boire des bières, quoi. Mais...
tout le monde est reparti et je restais là, juste avec mon falafel un peu refroidi. Et en voyant le père de famille s'éloigner, j'ai réalisé à quel point j'étais complètement d'accord avec lui. Ça fait quelque temps que je réfléchis à faire un don d'ovocytes. J'en avais d'ailleurs parlé avec Anne, qui elle aussi y avait réfléchi. Et je lui avais demandé si elle, ça lui ferait bizarre de savoir que son don avait donné vie à une personne, si ça lui ferait bizarre de savoir qu'il y avait quelqu'un sur la planète Terre qui lui ressemblait énormément. Et j'avais adoré sa réponse.
Des fois, tu vous croises des gens dans la rue qui ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, à d'autres gens qui n'ont rien à voir, qui sont dans une autre ville. Ben voilà, si quelqu'un me ressemble, c'est pas très grave. La génétique, enfin... c'est pas la famille. Déjà, la famille, bon, voilà, on pourrait en parler pendant 10 000 ans sur les liens que t'as avec ta famille, qui t'a élevé, c'est pas forcément les liens les plus faciles, ça dépend des familles. Enfin, je sais pas, moi, j'ai des parents qui sont mes parents génétiques, et bon, c'est pas forcément toujours facile, enfin, on a pas forcément la meilleure entente à cause de X et Y raisons. À l'inverse, alors je vais parler pour Léna, mais elle a une famille multi-recomposée, je cite. Et donc elle a des parents, et puis des beaux-parents, et tout le monde est la famille, et tout le monde vit ensemble très bien. Et pourtant, et elle a des frères et sœurs qui sont pas ses frères et sœurs génétiques, puisqu'en fait elle a aucun parent en commun avec eux, mais c'est quand même ses frères et sœurs. Bon bah voilà. Du coup, je me dis, bon bah là, nous on a cet enfant. C'est notre enfant, puisqu'il est là avec nous, qu'on l'élève. C'est pas parce qu'il est là ou a pas des gènes en commun avec nous que ça va être plus notre enfant ou moins notre enfant.
Les semaines ont passé depuis notre discussion et je suis toujours aussi d'accord avec elle. Mais parce qu'il y a toujours un mais, j'ai toujours autant envie que mon enfant me ressemble génétiquement. Et cette incohérence commençait vraiment à me taper sur les nerfs. J'ai vraiment envie de comprendre pourquoi je bloque comme ça, tu vois, et pourquoi je m'obstine à vouloir choisir le donneur. J'ai envie de me libérer de ce désir étrange. J'ai envie de me libérer de ce désir incompréhensible. Du coup, je suis allée voir, comme d'habitude, la seule personne qui est à même de m'aider à comprendre ce paradoxe, mon psy, Laurent Fagion.
La parentalité, c'est quand même une aventure. Et dans cette aventure, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Et évidemment qu'on a besoin de se rassurer, d'aborder les choses dans un fantasme, bien sûr, au préalable, sur des choses qu'on maîtrise. Enfin, qu'on a l'impression, en tout cas, qu'on pourrait maîtriser. Sa couleur de peau, des choses à l'identique, qui nous font nous dire qu'on va pouvoir le gérer, on va pouvoir accompagner, on va pouvoir répondre à ce que l'enfant va pouvoir avoir à traverser. Et maîtriser, c'est un terme important, mais qui encore une fois est un fantasme, parce qu'on ne maîtrise pas tant que ça, mais dans la parentalité, l'idée de maîtriser un peu les choses est quand même très rassurante. On peut faire un parallèle avec un parent hétérosexuel qui préfère, pour de multiples raisons, mais aussi pour une raison qui est qu'il sait accompagner un enfant hétérosexuel, peut-être plus simplement qu'accompagner un enfant homosexuel. Puisque aujourd'hui, il y a très peu de méthodologie pour les parents, eh bien, ça semble plus simple d'aller vers ce qu'on connaît. Cet enfant, de toute façon, va présenter des différences et qui viendront peut-être de ton côté génétique. L'enfant n'est pas moi, l'enfant est différent.
Donc si je comprends bien mon psy, en fait, si je veux que mon enfant me ressemble, c'est parce que je suis une poule mouillée, quoi. Et ça me plaît pas trop, parce que moi, je m'étais toujours dit que je serais une mère relaxe, que j'aimerais mon enfant, même s'il me ressemble pas, même s'il décide d'être un électeur du FN, ou pire, qu'il décide de ne pas aimer Titanic. Alors j'ai pris une décision. Ça y est, j'ai décidé de complètement lâcher prise. J'allais accepter l'inconnu, accepter le fait que mon enfant allait être sa propre personne, qu'il aurait sa propre personnalité et que ses gènes auraient peu à voir avec le Schmilblick. Et puis toutes ces discussions, en fait, ça m'a fait réaliser que le plus important pour moi, c'était pas tant le patrimoine génétique du donneur, plutôt que ce qu'il représente. Je veux pouvoir raconter une jolie histoire à mon enfant. Et en toute honnêteté, je crois que ça élimine l'option de trouver un donneur dans la rue ou sur un site type Le Bon Coin du sperme. Je suis sûre que je pourrais trouver des personnes très bien comme ça, c'est pas la question. C'est juste que ça voudrait dire prendre le temps de les connaître et d'évaluer si je leur fais confiance. Et je crois que j'en ai pas vraiment envie, en fait. Alors il reste la dernière option. Demander à des personnes que je connais déjà. Et ça, c'est ce que je vais faire dans le prochain épisode. Ah et au fait, Xavier Dolan n'a toujours pas répondu.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.